Hola.
Buongiorno a tutti.
Hello.
Bonjour. Bienvenue dans l'émission Chez nous l'Europe sur RCF. Je suis Victoire Delemotte du Lab Lisieux Normandie et aujourd'hui nous retrouvons Stéphanie Yoncourtin, députée européenne. Bonjour Stéphanie, vous allez bien ?
Oui, bonjour Victoire. Oui, je vais bien et vous ?
Très bien, merci. C'est parti pour le décryptage des actualités européennes. Mais tout d'abord, félicitations. Vous avez en effet été réélue vice-présidente de la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen. Est-ce que vous souhaitez faire un bilan de votre premier mandat et nous dire quel projet vous comptez mener pour la suite ?
Merci d'abord, Victoire, pour vos félicitations. Alors, c'est que la première partie du premier mandat, hein, de ce mandat. Le bilan est déjà très copieux, hein, à la Commission des affaires économiques et monétaires, ou Commission ICON, dans laquelle donc j'ai été réélue vice-présidente, est vraiment au cœur des travaux en cours sur le nouveau modèle de croissance européen. On écrit en fait véritablement la loi européenne, forcément conjointement avec les ministres des 27 États membres du Conseil de l'Union européenne, puisqu'on est le Parlement européen est co-législateur, sur de nombreux sujets, alors tous les enjeux macroéconomiques, par exemple le plan de relance européen, et la question de l'application aussi des fameuses règles de Maastricht, les règles de concurrence également dans le domaine du numérique, avec notamment l'acte sur les marchés numériques, la régulation de tout l'écosystème financier, par exemple la finance durable, la finance numérique, la fiscalité, même si les pays européens restent décisionnaires à l'unanimité, eh bien c'est quand même nous qui travaillons sur ces sujets et bien d'autres encore. Alors, en tant que vice-présidente, moi je participe à l'organisation aussi des travaux de la commission ICON, l'animation des débats, la définition de l'agenda et puis bien sûr un examen attentif de tous les projets de loi européens. Alors, je suis vraiment ravie de représenter la voix de la France au sein du Parlement européen. Et vous savez que notre délégation Renaissance, ce sont 23 députés européens de la majorité présidentielle avec une forte influence inégalée par le passé. Et en matière économique aussi, on renforce l'Europe pour renforcer la France.
Vous êtes d'ailleurs pas la seule à avoir remporté une élection le mois passé, puisque la Maltaise Roberta Metsola est devenue présidente du Parlement européen le 18 janvier, suite au décès de David Sassoli. Et quels sont selon vous les changements à prévoir ? Quelle est en fait la ligne directrice de cette nouvelle présidente ?
Alors d'abord, ouais, merci. Sur Roberta Metsola, il faut préciser qu'elle est devenue présidente du Parlement européen. Alors, pas forcément suite au malheureux décès de David Sassoli, mais parce que il y avait au même moment des élections de mi-mandat qui devaient se tenir. Et c'est d'ailleurs tout le bureau du Parlement européen composé donc de sa présidente, Roberta Metsola, et 14 vice-présidents et 5 questeurs qui a été renouvelé. Bien évidemment, le bureau du Parlement européen, c'est le représentant des différentes sensibilité du Parlement européen sans qui rien ne se fait. Alors, sur l'élection de Roberta Metsola, c'est le fruit d'un accord historique de mi-mandat de notre groupe, Renew, avec celui du PPE, la droite, et celui des SED, qui est la gauche. C'est un accord qui met en avant 10 priorités pour les Européens, dont la défense inconditionnelle de la promotion des droits sexuels et des droits reproductifs des femmes. Alors, sur ses positions contre l'avortement, parce que ça a été un des sujets et aussi très important pour nous. Il faut vraiment préciser que le soutien de notre groupe Renew et surtout de notre délégation à Roberta Metsola a été conditionné à des demandes qu'elle a respectées. Et elle s'est engagée notamment en décembre dernier en faveur du pacte Simone Veil, qui est vraiment une de nos promesses de campagne qui vise à préserver, à promouvoir les droits des femmes partout en Europe. Et elle a rappelé publiquement dans un entretien au Figaro, qu'elle portera la voix de la majorité au Parlement européen sur le sujet du droit à l'avortement, et tout ça indépendamment de ses propres convictions.
En parlant du Parlement européen, on n'avait pas encore eu l'occasion de revenir sur le discours qu'Emmanuel Macron y a mené le 19 janvier. C'était dans le cadre de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. Le président de la République est intervenu et il a notamment évoqué sa volonté d'actualiser la charte des droits fondamentaux, notamment sur des points liés à l'environnement, l'avortement, on en parlait, ou encore la sécurité. Quelles sont les mesures que le président essaye de mettre au devant de la scène, selon vous ?
Oui, notre président, effectivement, vous l'avez rappelé, de la République, Emmanuel Macron, a présenté le 19 janvier les trois grandes, beaucoup de priorités, et notamment trois grandes priorités que je voudrais rappeler de la présidence française du Conseil de l'Union européenne. D'abord, la souveraineté européenne, et ça c'est véritablement quelque chose sur lequel on travaille, notamment dans le monde numérique, avec deux nouveaux règlements européens historiques qui sont le DMA, l'acte sur les marchés numériques que je porte au Parlement européen, et le DSA, l'acte sur les services numériques. Il y a aussi également la question de la transition écologique qui est très importante. Pour cela, on fera tout notre possible pour faire aboutir le dossier emblématique du mécanisme d'ajustement au carbone aux frontières extérieures de l'Union européenne. Ben, ça signifie tout simplement que les entreprises ne pourront plus polluer à l'extérieur des frontières de l'Europe et importer ensuite leurs produits pour échapper à nos normes environnementales. Il faudra donc pourvenir faire leur business, si je peux dire, investir sur notre marché intérieur, eh bien, il faudra respecter nos normes. Et puis ensuite, une Europe plus sociale. Et ça, c'est important parce que l'idée, c'est vraiment d'instaurer, par exemple, un salaire minimum dans chaque État membre de l'Union européenne. Et c'est trois priorités qui sont vraiment au cœur du nouveau modèle d'investissement et de croissance européen qu'on définit actuellement. L'idée, c'est vraiment que pour avoir une France forte, on a besoin d'une Europe forte. Mais c'est bel et bien au niveau européen hein, que se joue en plus les grands défis du 21e siècle qui ont un impact sur nos vies quotidiennes.
Et ces 6 mois de présidence du Conseil de l'Europe se font en plus dans un climat assez tendu dû aux élections présidentielles en France. Est-ce qu'il est possible de mettre tout ça en place en fait d'ici juin, alors même qu'on ignore encore qui va succéder à Emmanuel Macron ou s'il sera réélu?
Bah écoutez, en fait, l'idée c'est que là, véritablement, c'est la voix de la France qu'il faut continuer à porter au sein de l'Europe. Malgré la tenue des présidentielles, Emmanuel Macron s'est engagé jusqu'à son dernière heure de son mandat actuel de porter ses projets lors de la présidence française. Moi, j'ai vraiment aucun doute sur cet engagement et nous, de notre côté, hein, avec mes collègues députés européens, on fait tout ce qu'on peut pour pouvoir aboutir sur ces dossiers qui sont aussi des dossiers qui sont partagés et il y a un consensus avec nos collègues étrangers. Qu'il faut avancer sur ces dossiers et ils comprendraient pas que la France, sous couvert de postures politiciennes nationales, ne veuille pas aboutir. Et on a reçu la semaine dernière de nombreux ministres français, hein, en plus pour échanger sur les grandes priorités de la présidence française de l'Union européenne, la lutte contre le réchauffement climatique, la régulation des géants numériques ou la promotion des femmes. Et bien évidemment, on est tous vraiment sur le pont pour travailler d'arrache-pied et faire en sorte que tous les un maximum de projets à bord.
Et pour finir, j'aimerais qu'on aborde la législation des contenus sur Internet. Donc, vous en avez parlé déjà plusieurs fois depuis aujourd'hui. Le Parlement européen s'est prononcé fin janvier en faveur du Digital Services Act, dont vous nous parliez juste avant, ce projet sur lequel vous avez travaillé pendant longtemps. Est-ce que vous pouvez rapidement nous rappeler de quoi il s'agit et nous expliquer concrètement l'impact de cette loi dans le quotidien des Européens?
Oui, bien sûr. Donc moi, effectivement, il y a deux textes. Moi, je suis rapporteure sur le Digital Markets Act, qui est l'acte sur les marchés numériques. Et également, il y a le Digital Services Act, qui est l'acte, celui-là, sur les services et les produits en ligne. Et l'idée, c'est de créer un système pour le Digital Services Act d'obligation pour les plateformes en ligne, obligation en matière de services et produits, c'est-à-dire, vous savez, d'abord les contenus. Il faut mettre fin au contenu haineux, harmoniser les réglementations sur ce point. Et c'est un système d'obligations et de responsabilités pour les plateformes selon leur taille et le risque qu'elles posent à la société. Donc en fait, l'idée, c'est qu'il faut poser des règles claires pour la suppression des contenus illicites et illégaux en ligne. Et le principe, c'est ce qui est légal hors ligne doit être illégal en ligne. Et ça vaut pour les grandes plateformes qu'on connaît, mais aussi les petites places de marché, par exemple. Et donc, l'idée aussi, comme je l'ai dit, d'imposer de nouvelles obligations pour les très grandes plateformes, fondées vraiment sur les risques qu'elles peuvent représenter pour la société. Et l'idée, c'est que il y aura des sanctions, d'abord un pouvoir de surveillance accru et de sanctions avec des amendes et voire des exclusions temporaires du marché en cas d'infraction grave et continue. On pourrait par exemple penser que une plateforme qui n'ôterait pas son contenu illicite de son système, de son écosystème, alors même que on lui aurait demandé, eh bien, elle pourrait être retirée de ce marché. Et on a reçu la semaine dernière, et donc effectivement, de nombreuses discussions là-dessus, parce que il y a eu ce qu'on appelle les premiers discours et dialogues. Dossier interinstitutionnel sur ces points. Et donc, discussions entre les trois institutions ont démarré, que ce soit pour le DMA et le DSA, c'est-à-dire entre le Parlement européen, que moi je représente, la Commission européenne et le Conseil des ministres qui discutent sur, effectivement, le fait que ces règles, elles doivent être appliquées de façon uniforme. Sur ces deux gros pilier de la souveraineté numérique, hein, de la régulation numérique, eh bien, on espère aboutir sous présidence française sur ces deux réglementations qui sont véritablement les premiers étages de la fusée numérique. Il y en aura d'autres, ils ne seront pas parfaits, mais c'est vraiment la fin, en fait, du Far West. Les grandes plateformes et les plateformes ne vont plus pouvoir faire ce qu'elles souhaitent.
Est-ce que le Parlement européen apporte des solutions de modération aux grosses entreprises, ou est-ce que c'est à chaque entreprise, en fait, de recruter, de trouver comment faire pour modérer les contenus en ligne?
Les entreprises ont une responsabilité de proposer, en fait, des solutions de modération des contenus, étant entendu que plus elles sont grosses et plus leur, je l'ai dit, responsabilité est accrue. Et donc, bien évidemment, c'est à elles de proposer des solutions, étant entendu que c'est aussi à elles d'être diligentes dans le retrait de contenus illicites et illégaux.
Merci beaucoup, Stéphanie Yoncourtin, d'avoir été avec nous à distance sur RCF. Vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on ne se quitte ?
Non, vous remerciez beaucoup pour ce moment d'échange, d'explication. J'espère que ça intéressera les auditeurs. Et je vous remercie beaucoup, Victoire.
Merci à vous. On se revoit le mois prochain.
Allô.
Hola.
Bonjour à tous.
Hello.
Bonjour.